On se retrouve avec le collectif Aurora Champfleury pour parler de la psychanalyse céleste transterrestre. C'est le titre d'un livre qui est publié aux éditions Matière à lire. Et c'est préfacé par Béatrice Rigaud. Et on avait oublié de citer Marie-Christine Viau. Voilà. Alors, on se retrouve donc avec toute l'équipe. Votre livre, finalement... Je vais le résumer de façon très novice. Hein, quelqu'un, est-ce que c'est pas finalement vous pensez, vous êtes intimement convaincu que notre âme nous accompagne en permanence, qu'elle a des fils invisibles avec d'autres âmes, avec peut-être même d'autres univers, qu'on n'est pas là par hasard et que un moment dans votre vie, il y a eu une révélation. Cette révélation, de la même manière que dans un film de science-fiction, quelqu'un ne voit rien, on lui met des lunettes magiques pour voir l'homme invisible. Voilà, comme dirait la science-fiction. Ben voilà, dans votre âme, vous les voyez pas, mais vous décelez ça, vous le ressentez, ce qui vous permet de comprendre beaucoup plus de choses sur notre vie terrestre. Est-ce un résumé très brouillon de votre démarche?
Non. Alors, si, il y a de ça,
Marie-Madeleine
Morat. Je pense que c'est moins de l'ordre d'un ressenti que de la recherche vibratoire que l'on mène, puisque tous, je pense, on a fait pas mal, avant de rencontrer cette méthodologie de la science quantique de la vie, on a été dans pas mal soit de thérapie, on a expérimenté pas mal de choses.
Mais quand vous dites ça, vous avez 90% de gens qui se disent ils sont cinglés.
Tant pis.
Oui, non, mais c'est une bonne réponse. Oui.
Tant pis, nous, on le sait que nous ne le sommes pas.
Voilà, mais je me dois de réagir comme ça, est-ce que vous leur dites, voilà. Voilà, c'est pas comme dans les films, parce que aussi quand j'ai dit ça, parce que c'est pas comme dans les films hollywoodiens, on voit des créatures qui apparaissent et les flammes, etc. C'est pas ça. Il y a quand même, il y a beaucoup de ressentis intérieurs, c'était ce que je voulais dire.
Oui, bien sûr, mais on s'appuie sur des méthodologies quantiques et scientifiques. C'est-à-dire qu'il y a un professeur, le professeur Étienne Guillet, qui a fait 50 ans de recherche sur le cancer, qui est un agrégé de biochimie, de mathématiques,
oui,
etc.
Mais bon, vous voyez comment il a fini. Les gens vont rire après, c'est
pourquoi
ça.
Pourquoi?
Bah, Étienne Guillet disait que ses cheveux servaient d'onde.
Ah.
Non, mais c'est très réducteur. Et quand on veut caricaturer, on peut tout dire. On peut tout dire. Et justement, on peut...
C'est lui qui a découvert les métaux.
C'est quand même... Il a quand même découvert que l'ADN, il y avait des métaux.
Je sais, mais je me dois...
Il a aussi découvert
que... Si je le pense, d'autres vont faire des recherches. Les gens vont ressortir des...
Oui, mais justement, dans l'ADN, il a aussi mis en évidence qu'il y avait un langage. Et justement, le fait qu'il y ait des métaux, alors qu'il y a des métaux dans la Terre et il y a des métaux dans les planètes, fait que l'homme peut être, l'être humain peut être un lien entre le ciel et la Terre. Et après, pourquoi on se gosse de lui? Je veux dire, il y a eu des personnages très importants qui ont utilisé le pendule. Marie Curie utilisait le pendule. Enfin, je veux dire, il y a plein de personnes. Donc, pourquoi l'attaquer là-dessus? Parce qu'on a envie de l'attaquer. Si on veut attaquer quelqu'un, on peut toujours. Hein.
Oui, c'est un être qui a mis à jour les causes de première, seconde et tierce des maladies telles que le cancer, le sida, la sclérose en plaques, etc. Donc, ça, c'est un fait. C'est un fait brut.
Et c'est aussi comment lui qui a mis en évidence que l'hétérochromatine constitutive, appelée quand même ADN poubelle par les scientifiques, alors qu'en fait c'est la majeure partie de l'ADN, et c'est dans cette partie-là qu'il y a le plus d'éléments essentiels pour la vie, on va dire, de l'être humain, de son esprit et de son âme, donc c'est quand même très réducteur, quoi. Est-ce que c'est pas plutôt parce que les gens n'ont rien compris?
Et puis, est-ce qu'il y a au-delà de cinq sens? Parce que là, en fait, on parle de ressenti, on parle justement de choses très réducteurs.
On parle de cinq sens parce qu'on les connaît.
Bien sûr.
Et c'est forcément.
Et voilà, c'est facile. Mais au-delà, justement, de la science, donc des 18 sens, comment s'expriment les autres sens, autres que du ressenti ?
Oui. Patrick, vous voulez ajouter autre chose ?
Oui, je voulais rajouter que on peut s'interroger sur. Vous parliez tout à l'heure des cheveux. Mais qui se pose la question de savoir quelle est la fonction des cheveux ? Pourquoi dans beaucoup de traditions...
On va vous expliquer que les cheveux, parce qu'à l'époque de l'homme de Cro-Magnon, il fallait laisser pousser les choses pour ne pas avoir froid. Quoi.
Voilà. Donc à partir du moment où on part de cette idée-là, on a perdu la fonction des organes. Et on ne sait plus pourquoi, dans certaines traditions, les Sikhs se font des grandes tresses. Pourquoi il y en a qui, pourquoi la barbe, chez les Égyptiens, est symbole d'éternité ? Le pharaon, il portait la barbe quand il était éternel. Donc vous voyez, on a perdu le sens de la fonction de l'être humain. Donc on ne sait plus se poser la bonne question. Nous c'est ce qu'on se répète souvent, on n'a pas les réponses à tout, bien entendu, on est chercheurs. Mais on se repose la question, pourquoi les dieux égyptiens portent-ils la barbe ? Quand c'est un être humain, il n'a pas la barbe. Donc c'est que la barbe a une fonction très particulière. Et on sait maintenant que les scientifiques ont démontré que les cheveux, les ongles, les os de l'être humain ont une capacité de ce qu'on appelle l'effet tunnel. C'est un effet quantique, c'est-à-dire la capacité pour un atome de passer une barrière qu'il ne devrait pas franchir. Donc il y a un aspect quantique des cheveux. Voilà.
Et c'est aussi une signature de notre ADN, les cheveux.
Oui, parce qu'il suffit aussi de prendre un cheveu. Voilà, on le voit bien.
Tout à fait, oui.
Dans les enquêtes. Le collectif Aura Champfleury, c'est le nom du collectif, hein, Aura Champfleury, qui publie la psychanalyse céleste transterrestre. Après, il y a toute une méthodologie de calcul. D'où viennent ces calculs, cette méthodologie qui est exposée dans le livre ?
Alors, la méthodologie donc expose un ensemble de faits bruts que l'être humain est capable d'actualiser. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que dans l'ADN et dans la partie, ce qu'on appelle l'hétérochromatine constitutive de l'ADN, donc on va dire les 97% de l'ADN, il y a des métaux. Ces métaux sont au début de certaines séquences d'ADN, et ces métaux-là donnent la conformation spatio-temporelle de la partie de la séquence ADN, parce que c'est un métal spécifique. Et à chaque métal, on a une conformation spatio-temporelle, une forme de l'ADN spécifique. Et ces différentes conformations spatio-temporelles spécifiques qui sont représentées sur ce que nous, on appelle donc des grilles interfaces, c'est ce qu'on appelle l'alphabet du langage quantique de la vie, qui correspondent à une direction dans l'espace. Et le pendule, qui est un prolongement du sens constitutif de l'être humain, qui est la radiesthésie, eh bien, ces métaux font bouger le pendule dans une certaine direction en fonction du métal en question. Le métal, par exemple, un métal plomb, va faire bouger le pendule dans une certaine direction. Le métal éteint va faire changer la direction du... Voilà. Et lorsque l'on teste, par exemple, un objet, on va prendre un métal, par exemple, on va tester le plomb, eh bien, le pendule va prendre dans l'espace un certain nombre de directions et va osciller un certain nombre de fois. D'accord ? Donc il y a des nombres et il y a des directions. À chaque direction, il y a une lettre, donc ça va faire un nom qui va être nombré. Et l'ensemble de ces directions dans l'espace, il peut y en avoir 3, 4, 5, c'est ce qu'on appelle donc la traduction vibratoire du métal testé, ce que les anciens appelaient la signature, avec Joseph Böhm par exemple, etc. Eh bien, c'est comme ça qu'on obtient, grâce au sens de la radiesthésie, sens de l'être humain, qu'on a par exemple, on peut le trouver chez certains sourciers par exemple, qui, lorsqu'ils cherchent de l'eau, ils ont les baguettes qui bougent, parce qu'ils sont en résonance avec l'eau. Eh bien, l'être humain, lui, a cette capacité de résonance avec tout ce qui l'entoure, son environnement, et il a cette capacité à nommer et nombrer, donc réaliser une traduction vibratoire, c'est-à-dire nommer le champ de force qui anime cette structure. C'est comme ça qu'on obtient, nous, en tant que chercheurs, les différentes interfaces, les différentes traductions.
Ça vous amène alors à avoir davantage d'infos sur vous, sur le collectif, sur d'autres personnes, des événements, des lieux. Voilà, question très...
Alors oui, évidemment que ça nous permet de mieux nous connaître, d'apprendre à nous connaître. Il ne s'agit pas dans un premier temps de tester forcément les autres parce que on tâtonne, hein, on cherche. Donc déjà il faut je dirais balayer devant sa porte. Mais c'est sûr que ça nous apprend à nous connaître.
Vous savez pourquoi je vous ai posé cette question? Parce que dans ce que m'a décrit Patrick, ce sont des techniques qui sont voilà, ça va faire rire certains peut-être, qui sont utilisés par la CIA, par la NSA. Voilà, dans des recherches, sur l'avenir du monde, sur les conflits, sur les guerres, vous en avez entendu parler.
Oui, tout à fait. Et comment expliquez-vous que nous sommes gossés?
Et donc, pour continuer par rapport à cette méthodologie, et donc de mettre en évidence, d'actualiser des traductions vibratoires, donc des signatures, et donc de pouvoir mettre en évidence à la lumière du jour des champs de force qui animent certaines structures de notre environnement et de nous-mêmes, j'ai oublié, non, pardon, j'ai perdu mon idée.
Bon, alors, vous le retrouverez. Voilà.
Oui, le fait d'actualiser ces traductions permet de nous mettre en résonance avec certaines structures vibratoires, notamment avec notre double, ouais. Puisque nous nous rendons compte, d'après ces recherches, que tout est double.
Ben voilà, je vais vous poser la question. Que pouvez-vous nous dire, voilà, les gens qui vont être curieux, qui ont écouté, un peu sceptiques, plutôt qui sont gossés au début, puis sceptiques après, qui s'interrogent maintenant. Donc, je vais aller un peu plus loin, je vais vous poser la question. Qu'est-ce que vous pensez du monde qui nous entoure, des univers qui nous entourent? Est-ce qu'on a des doubles ou pas? Voilà, j'allais vraiment aller sur ce terrain-là. Qu'est-ce que l'invisible qui est autour de nous?
Ce que je peux dire, c'est que, justement, Patrick a abordé le langage quantique de la vie, et ce langage que l'on peut... on peut donc obtenir des vocables grâce à des grilles interfaces, et la grille interface, quelque part, c'est ce qui est entre le double et nous. C'est-à-dire que la grille interface qui est sur un cercle, les lettres se trouvent sur un cercle, c'est quelque part la projection, l'être humain, on l'a, c'est d'ailleurs c'est dans un des chapitres, on parle des pyramides, l'être humain est fait de pyramides, ce qui explique pourquoi dans toutes les traditions et dans le monde entier, on voit apparaître des pyramides un peu partout. L'être humain est donc fait de pyramides, et ces pyramides qui sont projetées sur un plan, si vous voulez, quelque part, se retrouve, c'est l'interface de lecture entre le double, entre nos différents types de doubles et nous-mêmes.
Est-ce que, Marie-Madeleine Morin, ce que vous appelez, vous, le double dans votre langage, dans d'autres langages, certains vont dire c'est notre ange gardien?
C'est l'invisible, c'est notre partie occulte. Et pourquoi pas peut... Certains peuvent éventuellement...
Oui, dans d'autres langages.
Oui. Je pense que certains appellent ange gardien leur double. Oui, je pense.
C'est une lecture en fait élargie justement de comprendre en fait ce qui se passe au-delà justement d'un corps de chair, par exemple.
Alors Florence Saoury, il y a un moment dans le livre, et c'est vous qui l'avez fait, il y a aussi une évocation de l'actualité évidemment avec la crise sanitaire et la Covid et les vaccins.
Oui, parce qu'on touche tous les domaines.
Oui.
Dans notre recherche, on n'a vraiment aucun domaine de banni. On s'ouvre, tout est ouvert.
Il n'y a pas de censure.
Voilà, il n'y a pas de censure. Merci.
C'est-à-dire qu'on tente de répondre, en effet, à des questions surtout fondamentales. Alors, c'est pas le propre de notre recherche, hein. Déjà, le vaccin. Moi, ce que j'ai pu témoigner, c'est que je me suis retrouvée face à cette situation, me dire, bon, qu'est-ce que je fais? Voilà, quel acte je pose pour moi-même? Puisque moi, ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est que parfois, entre l'idée, la pensée et l'acte, c'est un petit peu perdu. Donc moi, cette recherche m'a permis d'éclaircir un petit peu plus cette situation. Et bien sûr, cette situation et donc les recherches que j'ai pu obtenir sont évolutives et voilà, elles sont vraiment applicables, mais pour ma recherche. Et je tente de répondre à ces questions fondamentales.
Alors Florence, vous évoquez le chiffre 666.
Oui, et alors Alors, en fait, pour moi, c'est une fréquence que j'ai pu obtenir. Pour moi,
alors
pour moi,
c'est
une fréquence qui est en fait de l'ordre de l'amalgame pour moi, et donc justement qui n'est pas encore très claire, qui n'est pas défini et déterminé. Et donc, comme quand il y a des amalgames, hein, et ben c'est là qu'on est dans le flou. Et c'est justement
ça veut dire
là où
l'amalgame.
Quand il y a deux déterminismes oui. qui se rencontrent et qui sont en fusion en quelque sorte. Et là, eh bien, c'est toujours très difficile à prendre des décisions dans ce genre de situation. Donc moi, ma lecture, d'ailleurs je le mets dans ce témoignage, c'est que oui, face à cette situation, je prends l'acte de ne pas me faire vacciner parce que voilà, c'est une recherche vibratoire. Mais encore, c'est ma recherche qui est très personnelle et ce n'est pas, je dirais, on va dire l'origine de ma ou les on va dire le but voilà de cette recherche.
Parce que 666, voilà, on va dire ça. Vous savez à quoi c'est associé, voilà. On va se dire que c'est le diable.
Moi, je le vois pas sur cet aspect-là. Hein, mais
il y a quelque chose qui n'est pas bon. En tout cas.
Alors quelque chose qui est en fait amalgamé, donc qui n'est pas clair et qui a besoin d'être éclairci.
En tout cas, par rapport à ce 666, ce qu'on peut dire, c'est qu'on trouve régulièrement. Enfin, moi, j'ai trouvé aussi, par rapport spécialement au vaccin, mais j'ai trouvé en moi certaines traductions, certains qui avaient une fréquence vibratoire, effectivement, de 666 battements. Parce que la fréquence, on la détermine comment ? On compte le nombre de battements. Et donc, il peut arriver qu'on trouve des éléments en notre ADN, en notre hétérochromatine constitutive, parce qu'on peut avoir dans une conformation spatio-temporelle les trois quarts de la conformation qui sont toutes conformes, toutes belles, et on peut avoir une partie comme ça, on va dire, nous on l'appelle, c'est du noir, on l'écrit en voilà, de couleur noire, et on peut avoir une partie qui est de fréquence, par exemple 666 ou 66, et ça... Si vous voulez, à force d'expérience, on s'est rendu compte que ça, c'était des champs de force anticréateurs qu'on tentait d'éradiquer de nous, notamment le cancer.
Donc on ne retrouve pas ce chiffre par hasard.
Non.
Qu'on soit croyant ou pas, peu importe. Voilà. Mais voilà, il y a des similitudes
qui reviennent.
Quand on sait que c'est le chiffre de la bête.
On confirme par nos méthodologies ce qui a été dit à un moment donné dans la Bible, effectivement, dans l'Apocalypse de Saint Jean. Effectivement, on pourrait dire peut-être qu'on est en pleine, on est en train de détruire certaines structures qui font que le monde est dans cet état-là.
Je ne sais pas comment dire votre technique, votre méthodologie, hein, bref, ce que
méthodologie,
vous,
oui.
peu importe. Vous permet aussi d'avoir des clés pour ce que nous, dans notre vie, qui ne l'avons pas, on dit souvent, on sent les gens, celui-là, on le sent, celui-là, on ne le sent pas, celui-là, je m'en méfie, celui-là, il me dit, oh là là.
Alors. Évidemment, on peut, comment dire, on peut clarifier un peu les choses par rapport à nos méthodologies, tout en sachant qu'on ne détient pas la vérité. Parce que, en fait, tant que notre niveau de conscience, on trouve à la hauteur de notre niveau de conscience des résultats quantiques qu'on peut avoir. C'est-à-dire que si vous vibrez à un certain niveau vibratoire,
vous n'allez pas
pouvoir tester quelqu'un qui est beaucoup plus élevé au niveau du niveau de son niveau de conscience. Vous allez forcément stagner au vôtre. Donc il faut faire très attention et on ne détient pas la vérité, mais en tout cas, par rapport à soi-même, on peut commencer à dire, tiens, là, je vois que j'ai des choses, c'est ça qui m'embête dans ma vie, c'est ça qui fait que j'ai des peurs, c'est cette chiralite, ce déterminisme-là, noir 666, qui fait que je n'ose pas faire ça, que j'ai des peurs dans ma vie, que je vais à la catastrophe chaque fois que je fais, je sais pas, moi, telle ou telle expérience, etc. Donc ça, on peut le dire effectivement.
Alors, il faut être évidemment très prudent parce que on peut voir du noir chez le copain et que cette personne soit en train d'actualiser justement ce noir, mais ce n'est pas sa nature fondamentale. Donc, il faut être extrêmement humble.
Ah, c'est pas permanent pour vous, Geneviève ?
Ah ben non, pas du tout. Rien n'est permanent. On est des chercheurs, tout cela évolue et on est en pleine, en plus, évolution, révolution.
Non,
tout
mais
ce que
quand
vous
voyez du noir chez quelqu'un, votre sixième sens.
Mais il n'y a pas de sixième sens. Enfin, si, il y a un sixième
sens. Moi, je l'exprime
mais...
par le sixième sens. Voilà.
Oui, il y en a 18. Il y en a trois fois plus. Mais bon.
Vous aviez compris le langage commun, le sixième sens.
Mais ce que je veux dire, non, ce n'est pas permanent. Et c'est... Alors après, il faut être humble dans la mesure où on est chercheur, on est loin d'être abouti, et donc on va trouver du noir sur quelqu'un, oui, bon, mais est-ce fondamental, est-ce parce qu'il est en train de sortir lui-même du noir, auquel cas il s'en débarrasse, et c'est ça qui apparaît, ou est-ce que parce que nous-mêmes on a du noir et qu'en résonance c'est son noir qu'on va trouver, donc c'est vraiment très complexe. Mais alors disons après, que... ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on n'a pas besoin de maître. C'est-à-dire que c'est le moyen de faire notre auto-psychanalyse, je dirais céleste transterrestre. Et notre vérité, elle est dans le temps, celle d'aujourd'hui. Mais on changera peut-être de vérité dans 2 mois. Enfin, il faut l'espérer du moins.
Oui, nous tentons de ne pas être dans le couple bien mal. C'est-à-dire que... On essaie de tendre vers une espèce de principe de neutralité. Parce qu'on ne peut pas être dans le jugement, c'est pas parce qu'on va trouver ce qu'on a disait par exemple
vous
du noir
dans
sur
le,
quelqu'un.
En même temps, quoi.
Voilà. C'est pas parce qu'on va trouver ça que la personne est ça. C'est-à-dire qu'une personne peut être recouverte comme quelque part d'oripeaux, mais être très belle voilà, à l'intérieur, et vice-versa. C'est-à-dire que certaines personnes peuvent être noires et se couvrir d'habits de lumière. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on dit.
De la fréquence verte.
Donc, oui, c'est ce que j'allais dire. Donc, nous, c'est vrai qu'on parle de ça, c'est-à-dire qu'on tente d'éradiquer ça de nous. Mais ce qu'on cherche avant tout, c'est de pouvoir actualiser quelque part nos merveilles, notre trésor d'éternité, pour pouvoir réaliser ce qu'on a à faire sur Terre. C'est-à-dire, pour nous, on cherche à réaliser notre pierre philosophale, la pierre philosophale dont parlaient les anciens alchimistes, c'est-à-dire transcender la materia prima pour retrouver en nous, quelque part, une substance divinisée qui puisse repartir après la mort de notre corps de chair. C'est ça qu'on tente de faire. Donc ça va beaucoup plus loin, si vous voulez, qu'une thérapie...
existentiel.
Voilà.
Oui, vous avez parlé de maître, il n'y a pas de maître, etc. Il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de... Voilà, c'est quelque chose de très personnel.
Et d'où l'importance du collectif, parce que chacun va avoir une lecture, justement, avec son propre langage vibratoire de la vie. Et donc, c'est un peu comme une boule multifacette, où chacun va avoir un accès, selon, justement, un lieu, un moment, un état. Donc ça enrichit, on va dire, un projet de recherche, d'où l'importance justement d'un collectif. Et d'où l'importance aussi donc de ce livre qui était de témoigner des facettes totalement différentes avec une même recherche. Donc on témoigne aussi qu'on est loin d'une pensée unique ou de suivre une autorité supérieure, hein, justement, comme disait Geneviève, c'est tout sauf ça, c'est l'expression de nos consciences, de notre essence et de notre existence. Et on s'aperçoit que vraiment l'expression est totalement différente dans les chapitres.
Et... Il va être temps bientôt de nous quitter, donc je vais vous laisser maintenant libre de dire ce que vous avez envie de faire partager comme message. Donc
peut-être que maintenant, on a éclairé ce pourquoi nous cherchons, quelle est notre quête, c'est-à-dire de pouvoir tenter de répondre à ces questions. D'où on vient, qui on est, qu'est-ce qu'on est venu faire sur la planète Terre et où on ira après la mort de notre corps de chair. C'est-à-dire que notre société matérialiste nous empêche de penser que nous ne sommes pas qu'un corps de chair. Nous sommes un être humain. C'est-à-dire que nous sommes un être dans un véhicule corruptible, provisoirement vivant, mais qui va retourner à la Terre. Et notre quête...
J'aime bien cette image de véhicule.
C'est le véhicule. Eh bien, notre quête, c'est de pouvoir déterminer avec assurance, j'allais dire, qu'est-ce qui anime et qu'est-ce qui fait la différence d'animation entre ce qui anime notre corps de chair et ce qui anime notre être. Donc il nous faut un nouveau référentiel, il nous faut un langage à la hauteur de la question, c'est-à-dire comment fait-on pour pouvoir faire la distinction précise de ce que nous pensons, est-ce notre corps de chair qui le pense ou est-ce notre être ? La question pour moi est fondamentale. Voilà. Et donc, synthétiser, je dirais que ces questions, elles expriment la conscience de l'être.
Est-ce que nous sommes venus pour nous enrichir matériellement ou est-ce que nous sommes venus pour enrichir notre substance qui est là de toute éternité ?
Oui, la réponse est facile, on va répondre la deuxième chose, on n'est pas là pour s'enrichir matériellement, mais maintenant, qui peut juger, qui peut savoir que l'enrichissement matériel va pas créer une belle découverte, qui peut savoir va faire avancer la Terre. Vous voyez ce que je veux dire ?
On n'est pas dans ce jugement-là du tout, on pose les questions. Voilà, et on se pose la question jamais, et voilà.
Il faut juste se poser la question, est-ce que la décision qu'on va prendre et la découverte qu'on va mettre à jour respecte ou non les lois de la nature et de l'univers ? C'est la seule question qui nous semble, en tant que chercheurs, la bonne.
Oui, mais après, si ça ne respecte pas, il y a des forces qui combattront cela, voilà.
Si c'est encore possible.
C'est la guerre du bien et du mal, finalement, voilà.
Alors, est-ce que le mal fait partie de l'éternité ou pas ?
Ben, si on pense que le bien, oui, oui, forcément.
Eh ben non, le mal n'est pas l'opposé du bien. Hein.
Voilà. Bon, alors ok.
Mais la question qu'on peut se poser, c'est comment fait-on pour montrer ou non que le mal et le bien sont consubstantiels ou pas du tout consubstantiels ? Il faut bien se poser la question. Comment peut-on répondre à une telle question si on n'a pas le langage à la hauteur de cette question ? C'est quasi impossible. Il faut bien mettre en évidence ce que portent les forces qu'on nomme le mal et ce que portent ce qu'on nomme les forces du bien. Quelle signature ? Quelle différence fondamentale ?
Dans la découverte. C'est ça, oui.
Voilà. Et tout le monde a vécu l'expérience.
La bombe atomique, à quoi ça
Alors, est-ce que... Voilà.
C'est l'exemple qui vient plus fréquemment. Voilà.
Puisqu'on parle d'un âge d'or. Pourquoi est-on dans cet... Pourquoi l'humanité est-elle dans cet état-là ? Pourquoi est-ce que la trois quarts de l'humanité sont en guerre soit économique, soit autre ? Et pourquoi fait-on des manipulations génétiques sans même se poser des questions sur ce qu'on fait au niveau de l'ADN des êtres ? Pourquoi est-ce qu'on fissure l'atome alors que ça peut déstabiliser même jusqu'à l'atome en nous ? Donc on peut s'interroger pourquoi l'être humain va jusque-là ? Alors qu'il y avait un âge d'or dont on parle il y a des milliers d'années. Alors, est-ce qu'on ne serait pas en train de retrouver cet âge d'or, ce qui fait que tout là on exacerbe quelque part, des forces sont exacerbées pour mieux s'autodétruire, mieux se détruire. C'est la question qu'on peut se poser.
Ça me fait penser à une phrase, à une réponse qu'a eu un chef d'État. Je vous dirai après qui c'est. On lui a demandé, ce chef d'État, il n'y a pas très longtemps, on parlait de la guerre, des risques de guerre qu'il y a, etc. Et il a répondu, la quatrième guerre mondiale sera une guerre de pierres et de bâtons. Les gens vont se battre avec des pierres et des bâtons. Je me suis un peu surpris, pourquoi la quatrième ? D'abord, il y a la troisième, s'il y a une de première, deux, trois pour l'instant. Vous nous parlez de la quatrième qui sera une guerre des pierres. Parce qu'il a dit, s'il y a une troisième guerre mondiale, elle sera tellement destructrice pour l'homme que la quatrième sera celle des pierres et des bâtons. C'est Vladimir Poutine qui a répondu ça il y a 2-3 mois.
Et alors, justement, pour rebondir par rapport à ce que vous dites, on voit très très bien qu'actuellement, il y a un enjeu très fort par un certain nombre de groupes de pression qui veulent exercer leur pouvoir sur d'autres êtres humains. Et donc, notre témoignage, au travers de ce livre, essaie de montrer que, actuellement, le langage quantique de la vie, il y a des instances qui veulent s'y opposer.
Quelle est la différence entre chercher, finalement, une question personnelle, le fait de chercher pourquoi on est là sur Terre, et le fait de ne pas se poser de questions, d'agir et de se dire que si un jour on passe au service comptable, donc à la fin de la vie, hein, qui va faire le bien, on se dira ça c'est plutôt bien, ça c'est voilà, j'ai bien œuvré. Et alors, le faire au quotidien, voilà.
Alors, le service comptable, j'aime beaucoup.
C'est venu en improvisation, voilà.
C'est
Saint-Pierre,
alors, alors, en fait, on pourrait aussi parler de la...
Comme quand on est viré, quoi.
on pourrait dire la psychostasie, hein, qui serait la pesée de l'âme, voilà. Hein, qui est évoquée d'ailleurs dans le livre.
Tout à fait, tout à fait.
Le cœur est plus léger que la plume. Je crois que c'est ça en fait, hein, cette grande pesée des actes vrais, du moins volutifs. Que pensez-vous d'ailleurs de cette belle couverture qui montre le zodiaque sphérique de Dendera, que l'on trouve d'ailleurs, qui représente, on va dire, les constellations, ce magnifique ciel, et donc toutes ces lois qui s'expriment, que l'on trouve donc voilà aussi au Louvre.
C'est comme une grille.
Voilà, c'est exactement
de la vie qu'on utilise. En fait.
Ouais, donc. Tout à fait. Et puis derrière, on a le papyrus de Nout, Geb, voilà.
Par rapport au service comptable dont vous avez parlé, j'avais plutôt envie de vous proposer une signature nombrée, une équation mathématique, des choses qui ont des rapports effectivement avec les nombres, mais qui sont ce que l'on doit signer sur Terre.
Donc votre livre du collectif Aura Champfleury, la psychanalyse céleste, transterrestre. On va mettre en podcast, on va mettre la couverture du livre, on va mettre tout ça, évidemment. Hein, on va abandonner personne. Vous retrouvez toute l'info. Si vous nous écoutez dans votre voiture, on va le mettre sur le web, évidemment. Merci de nous en avoir parlé. On était en studio avec Patrick Laillé, avec Marie-Madeleine Morin, avec Fanny Godin, qui habite à La Baule, avec Florence Sagori, qui habite à Saint-Brieuc, oui. Voilà, les deux premiers.
À côté. Voilà. Mon contour, exactement.
Voilà. Et ensuite, avec Geneviève Dessis, qui est parisienne, et on n'oublie pas Marie-Christine Viau, qui n'est pas là. Voilà.
Bauloise.
Mais qui est avec
et
nous.
Et qui est bauloise. Mais pourquoi une telle concentration, là, de gens de la Presqu'île, de la Baule sur le... Fanny, qu'est-ce qui se passe, là?
Parce que peut-être ce sont les formes d'esprit qui se rencontrent et que peut-être l'air salin, iodé, en Bretagne favorise tout ça.
La Ploermel, ils sont jaloux.
Oui, et puis à La Baule, il y a des séminaires justement de méthodologie.
Merci à toute l'équipe.
Merci beaucoup.